chère auditrice, cher auditeur de Shalom Bourgogne. Vous êtes dans votre émission Histoire, mémoire et transmission. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir M. Bruno Dupuis, qui est directeur du service départemental de Côte d'Or de l'ONAC CVG. Je vais le laisser expliquer ce très long sigle, lui donner son sens, et puis tout de suite nous préciser quelle est la fonction, quelle est la mission centrale de ce service lié à l'État français.
Bien, bonjour, merci déjà pour votre invitation et j'en profite pour saluer vos auditrices et auditeurs. Donc effectivement, j'ai l'honneur de diriger pour le département de la Côte d'Or donc l'ONAC-VG, qui est en fait l'acronyme de l'Office National des Combattants et Victimes de Guerre. Donc en fait, on est un établissement public. Beaucoup nous prennent pour une association, ce qui n'est pas du tout le cas. On est un établissement public qui est sous tutelle du ministère des Armées et dont la mission principale est la gestion des droits que l'État accorde au monde combattant et ainsi que la défense des intérêts matériels et moraux de nos ressortissants.
Alors peut-être nous préciser tout de suite vos grandes missions, les axes de vos grandes missions.
Alors, on a en fait trois grandes missions qui nous sont confiées par l'État et qui se retrouvent dans notre nouveau logo puisqu'on a changé de nom il y a maintenant un an et quelques. Donc c'est notre slogan, c'est aider, reconnaître, transmettre. Donc nos trois grandes missions, la première c'est ce qu'on appelle la reconnaissance et la réparation. Je pourrais revenir en détail sur chacune d'elles pour que les gens comprennent un peu mieux le périmètre un petit peu de ce que ces missions englobent. La deuxième mission, c'est la solidarité, c'est-à-dire notre accompagnement social auprès de nos ressortissants. Et puis la troisième mission, c'est la mission dite de mémoire, où on va travailler sur tout ce qui est éveil citoyen et transmission intergénérationnelle auprès des jeunes générations.
Alors avant de venir concrètement sur ce qui se fait en Côte d'Or, peut-être de particulier d'ailleurs, balayons ces trois grandes missions, donc commençons par la reconnaissance et la réparation.
Alors, pour bien comprendre un petit peu, nous, on a été créé, l'Office a été créé au cours de la Grande Guerre, en 1916 exactement. Ce qu'il faut bien se rappeler, c'est que si à l'issue de ce conflit, on déplore 1 400 000 soldats français morts pour la France, il y a également 4,5 millions de blessés, 600 000 veuves de guerre, 1 million d'orphelins mineurs qui vont devenir pupilles de la nation. Et en fait, à l'époque, l'État nous a créés pour accompagner toutes ces familles touchées soit par le deuil, soit pour la blessure. Donc au départ, notre mission, elle est véritablement à dimension sociale. Et puis très vite est apparue, par le poids du monde associatif, une demande de réparation, ce qu'on a appelé le droit à réparation. Donc dans cette mission de reconnaître et réparer, il y a donc tout ce qui est instruction des cartes et titres et des mentions. Par exemple, la mention « Mort pour la France » est une mention qui a été créée en 1915 et qui donc ouvre des droits très particuliers. Donc c'est nous qui avons la gestion de ces mentions pour le compte de l'État. En fait, il existe aujourd'hui 4 mentions officielles en France. Donc la mention « Mort pour la France », la mention « Mort en déportation » qui est apparue dans les années 80 et puis 2 mentions plus récentes officielles qui est « Mort pour le service de la nation ». Pour exemple, le colonel Beltrame s'est vu attribuer cette mention, ou Samuel Paty s'est vu attribuer cette mention également, qui donne des droits, un peu comme la mention « Mort pour la France », et puis plus récemment, une mention qui s'appelle « Mort pour le service de la République », qui ouvre d'autres droits. Donc c'est nous qui gérons ces mentions, c'est nous qui gérons les titres, c'est-à-dire la gestion et l'attribution des cartes du combattant, des titres de reconnaissance de la nation. Et cette mission, en fait, elle a évolué au cours du XXe siècle et au cours des conflits. Parce qu'au cours de la Seconde Guerre mondiale, on a dû créer de nouveaux statuts du fait de la guerre et des spécificités de cette guerre. Je pense par exemple au statut de résistant, au statut de déporté, au statut de PCT, c'est-à-dire les personnes contraintes au travail. Et puis dans les autres conflits, si on prend la guerre d'Indochine, il y a eu le statut des prisonniers du Viet Minh, par exemple. Au cours de la guerre d'Algérie, les prisonniers de la captivité en Algérie. Donc en fait, on s'adapte, le droit à réparation s'adapte. Et donc on est là pour, au nom de l'État, faire appliquer ce droit. Et puis sur la partie réparation, c'est tout ce qui va traiter, on appelle les PMI, les pensions militaires d'invalidité. Pour les personnes qui ont ce type de blessure reconnue, on attribue des cartes d'invalidité. On attribue également des cartes de stationnement pour cette partie de personnes concernées par la guerre, au même titre qu'il y a des cartes de stationnement pour les personnes qui peuvent être atteintes de handicap au titre civil.
Vous avez évoqué la mémoire de Samuel Paty, sur laquelle on a fait une émission il n'y a pas très longtemps. Ça fait lien avec le terrorisme. La France a subi pas mal d'actions terroristes dans ces dernières années. Est-ce que les gens victimes de ces actes-là rentrent dans le périmètre de votre travail ?
Oui, alors absolument, vous avez raison, votre question est pertinente. Je vous disais que le droit à réparation s'adapte, il s'adaptait en fonction des conflits. Au-delà de la guerre d'Algérie, c'est ensuite poursuivi ce qu'on appelle, nous, la quatrième génération du feu, les opérations extérieures, pour nos soldats engagés aux quatre coins du monde, pour, sous des mandats internationaux, aller défendre d'autres peuples, à retrouver la liberté. Et dès les années 80, pour tenir compte de la réalité, parmi nos ressortissants, nous comptons effectivement les victimes d'attentats terroristes, puisqu'on considère qu'en fait, que le terrorisme est une nouvelle forme de guerre et que les victimes d'attentats terroristes sont des victimes de guerre au même titre que nos autres victimes que l'on prend en compte. Et c'est pour ça que la mention « mort pour le service de la nation » en fait est directement liée, conséquence d'un phénomène terroriste, puisqu'elle a été créée après l'affaire Mera, lorsqu'un terroriste a abattu un certain nombre de militaires. Et donc, c'est une mention qui est apparue directement suite à ça en 2012.
Ce qui veut dire que les familles ou les orphelins, enfin les gens qui sont autour, rentrent dans les mêmes possibilités de reconnaissance et de réparation que les autres.
Voilà, l'attribution de la mention mort pour le service de la nation est en gros comparable à la mention mort pour la France, sauf que l'une est du fait d'un état de guerre. La mention mort pour le service de la nation qui a été créée suite à l'affaire Mera s'est passée en France, la France n'était pas en guerre, et donc il a fallu créer cette nouvelle mention pour pouvoir ouvrir. Mais c'est les mêmes droits, c'est-à-dire qu'il y a des droits pour le conjoint survivant le cas échéant, il y a des droits pour les ascendants éventuellement, et il y a des droits pour les enfants mineurs, et notamment la possibilité de les adopter pupilles de la nation.
Très bien. La deuxième mission importante de votre organisation, c'est la solidarité.
Oui, absolument. Alors c'est une mission qui est originelle, hein, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, et qui est très importante. Ce qu'il faut bien comprendre, il y a 20 statuts actuellement qui permet d'être ressortissant de l'office. Parce qu'on parle beaucoup des anciens combattants, mais les anciens combattants sont un des 20 statuts. Il y a 19 autres statuts qui permettent d'être ressortissant. Chaque statut, et c'est codifié, permet de disposer, de bénéficier de droits particuliers. C'est-à-dire qu'un pupille de la nation a tel droit, un ancien combattant a tel droit, une veuve de guerre a tel droit, une victime d'attentat a tel droit. Par contre, il y a un droit qui est commun à l'ensemble de nos ressortissants, c'est notre accompagnement social. Nos ressortissants, aujourd'hui, on les dénombre à environ 1,7 million en France. L'ensemble de nos ressortissants, quel que soit le statut pour lequel ils sont ressortissants, peuvent, le cas échéant, en cas de difficulté financière, en cas de fragilité sociale, faire appel à nous dans le cadre d'un accompagnement social. Alors c'est un accompagnement qui vient en subsidiarité, c'est-à-dire qu'on va s'assurer dans un premier temps que les personnes bénéficient bien de tout ce qu'elles peuvent bénéficier au niveau du droit commun. Et c'est quelque chose qui va tenir compte des charges et des ressources. Hein, et en fonction, on va étudier donc cette demande, on va étudier la situation de la personne ou du foyer, et on peut venir accompagner socialement, financièrement, administrativement et moralement en fonction de la situation de la personne.
D'accord. L'aide psychologique, par exemple, peut faire partie parfaitement de vos missions.
Oui, absolument, parce que malheureusement, et on le voit de plus en plus parmi nos ressortissants, on a des accompagnements qui sont très particuliers. Quand je pense à des pupilles de la nation, quand je pense à des victimes d'attentats, quand je pense à des militaires, alors il y a les blessures traumatiques que l'on connaît, mais il y a de plus en plus de ce qu'on appelle les blessures dites invisibles, les blessures psychologiques. Et au sein de nos armées, on a malheureusement énormément de militaires qui sont diagnostiqués SPT, donc souffrant de stress post-traumatique et qui nécessitent des accompagnements très très particuliers, très basés sur le psychologique, avec tout un accompagnement particulier. Donc c'est vraiment un accompagnement qui est individualisé en fonction de chacun. On peut aider aussi bien des anciens combattants de la Deuxième Guerre mondiale qui ont besoin pour pouvoir avoir un maintien à domicile, d'un réaménagement de salle de bain, de portage de repas, de téléalarme, alors qu'on peut aussi bien aider des jeunes pupilles de la nation mineurs dans le cadre de leur scolarité, comme on peut aider des victimes d'attentats ou des militaires blessés psychologiques sur des accompagnements très particuliers qui leur sont adaptés.
Alors, une question un petit peu, peut-être pas annexe, mais de Béotien en tout cas, concernant le SPT, le syndrome post-traumatique. On connaît bien l'histoire des guerres des Américains et on sait comment la prise en charge médiocre ou oubliée, ou en tout cas ce n'était pas d'actualité à l'époque, notamment après la guerre du Vietnam, a débouché sur un ensemble de problèmes de santé extrêmement graves. Et avec l'utilisation de médicaments, on a vu des militaires, d'anciens militaires, et le problème n'est pas réglé, qui deviennent dépendants à différentes drogues à partir de la médicamentation. Est-ce qu'en France, on a pris le taureau par les cornes, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont été blessés et qui ont vécu des choses très difficiles en Afghanistan ou dans le Sahel. Est-ce que vous avez le sentiment, sans vous demander un avis technique sur ce qui se fait, mais est-ce qu'en tout cas c'est bien pris en compte pour éviter les dérives qu'on a connues dans certains pays, dont les États-Unis, parce que c'est beaucoup étudié par les chercheurs aux États-Unis?
Absolument. Alors, c'est malheureusement un problème universel, je dirais, depuis que l'homme fait la guerre. L'homme souffre de manière traumatique, mais souffre également de manière psychologique. Je ne crois pas qu'un seul soldat ayant fait la Grande Guerre soit rentré, même s'il a pu être épargné de blessures traumatiques, et pu rentrer dans sa tête sans souffrance particulière. Donc c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Alors il est vrai qu'il y a eu, pour nous la France en tout cas, la guerre d'Afghanistan, qui a été un tournant. C'est véritablement là que l'institution militaire a vraiment posé le diagnostic et a commencé à mettre en place un certain nombre d'accompagnements adaptés. Alors aujourd'hui, je dirais que tout n'est pas parfait, mais beaucoup de choses ont été faites. Un plan particulier a été fait par le ministère des Armées, et donc il y a ce qu'on appelle les cellules d'aide aux blessés, les CABAT, donc chaque arme a sa cellule d'aide aux blessés, et qui suit, tant que les personnes sont au sein de l'institution militaire, suit particulièrement ces personnes-là, et les suit avec les hôpitaux militaires, notamment avec des psychiatres militaires. Un dispositif a été créé il y a 2-3 ans maintenant qui s'appelle les maisons Athos, qui sont des maisons dédiées pour ces personnes souffrant de stress post-traumatique, qui se retrouvent entre eux dans des maisons un petit peu isolées où les gens réapprennent à se sociabiliser, à retrouver le côté échange avec autrui, parce que pour ces personnes-là, ça peut être très compliqué. Moi, je connais des gens qui, malheureusement, n'arrivent même plus à sortir de chez elles, ne peuvent pas aller dans des transports en commun, ne peuvent pas aller faire des courses. Donc, il y a ces maisons Athos, qui sont au nombre de 6 aujourd'hui et qui, d'ici 2030, seront au nombre de 10. Et puis, il y a des tas d'accompagnements à côté. J'ai rencontré récemment l'association LACAP, qui en fait fait de l'éducation de chiens d'accompagnement pour des personnes justement spécifiquement atteintes de stress post-traumatique. Et donc c'est des chiens qui sont formés pendant 2 ans et ensuite confiés par cette association gratuitement à des bénéficiaires. Et grâce à ces chiens, les personnes retrouvent en tout cas la capacité, la possibilité de ressortir, ça les apaise énormément, ça les soutient énormément moralement. Donc voilà, tout n'est pas encore parfait, mais beaucoup de dispositifs sont mis en place à la fois par les institutions, également par le monde associatif. Et c'est enfin quelque chose qui est vraiment pris en compte. Notre difficulté aujourd'hui, c'est plus pour ces personnes qui n'ont pas forcément été diagnostiquées, qui sont donc d'une autre génération, je pense notamment à tous ceux qui ont fait le Liban, qui aujourd'hui ont quitté l'institution militaire depuis un certain nombre d'années et qu'il nous faut aujourd'hui essayer d'identifier, de retrouver pour s'assurer que ces personnes ne sont pas en souffrance et qu'on puisse, le cas échéant, les accompagner, puisque quand ils quittent l'institution militaire, il n'y a plus que nous, Office national des combattants, qui avons encore la capacité et juridiquement la possibilité de les accompagner. Donc notre volonté est d'identifier toutes ces personnes.
Je vous remercie pour cet éclairage important sur lequel on reviendra peut-être, parce que cette question des traumatismes, c'est une question fondamentale pour le fonctionnement complet de la société. Parce qu'on sait les effets délétères, ça dans la vie de couple, notamment quand les gens reviennent retrouver leur famille, leurs enfants. Et on sait combien c'est parfois difficile. Il y a eu de très beaux films qui ont été faits, notamment aux États-Unis, sur cette question. Votre troisième grande mission, c'est la mémoire à la citoyenneté, qui nous permettra de faire le lien ensuite avec les réalités de Côte d'Or, puisque vous êtes très investi dans ce travail. Donc la mémoire et la citoyenneté.
Voilà, alors c'est une même mission. Hein. Moi, je parle souvent d'éveil citoyen. En fait, cette partie mémoire, ce que certains appellent le devoir de mémoire, moi j'aime pas trop ce terme parce qu'il y a rien, ça ne doit pas être contraint la mémoire, hein. Il n'y a pas de devoir, il y a un travail de mémoire éventuellement. Moi je la scinde en trois parties. Il y a la première, c'est ce qu'on appelle la mémoire de pierre. C'est nous pour le compte de l'État qui entretenons les hauts lieux de la mémoire nationale du ministère des Armées, comme le Struthof, comme le Mont Valérien, comme tous ces sites qui sont classés, les nécropoles nationales ainsi que les carrés militaires. Donc ça, c'est la mémoire de pierre et elle est importante. Il est important qu'on y veille également et on y met des moyens conséquents. La deuxième partie de la mémoire, c'est la mémoire au sens un peu institutionnel commémoratif. C'est toute la déclinaison des journées nationales commémoratives au niveau national, mais également l'aide, l'accompagnement pour les communes et les associations de cérémonies plus locales. Voilà, donc on est là pour les aider à organiser en termes de protocole et tout. Et puis la troisième partie de cette mémoire, c'est effectivement plus cette partie citoyenne, tout ce travail sur la transmission intergénérationnelle et tout ce qui participe à l'éveil citoyen des plus jeunes pour leur permettre d'avoir les outils nécessaires pour demain, lorsqu'ils seront citoyens à part entière de par leur âge, pouvoir être en capacité d'avoir un esprit critique et de faire les bons choix sans qu'ils se soient imposés par autrui.
Sur les morts de pierre, je crois que c'est assez connu. Vous occupez aussi des cimetières, du coup il y a des carrés militaires, j'imagine, parce que quand on se balade pour des raisons familiales ou autres dans les cimetières, on voit qu'il y a des carrés qui sont bien entretenus partout, en tout cas c'est le cas actuellement, semble-t-il.
Oui, alors il faut savoir qu'il y a, il y a 2200 carrés militaires environ en France. Sur la Côte d'Or, moi j'en gère, je gère 37 sites qui correspondent à environ un peu plus de 2000 sépultures. Ce sont des sépultures de mort pour la France, dit perpétuel, c'est-à-dire que en fait leur statut leur donne le droit que l'État entretienne à perpétuité la dite sépulture, qui est forcément une sépulture individuelle. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que dès qu'il y a une attribution de mort pour la France, alors depuis la Grande Guerre, mais encore aujourd'hui, ça s'applique, les familles sont directement et systématiquement contactées par les services de l'État pour leur demander leur choix, c'est-à-dire qu'elles peuvent très bien récupérer le corps de leurs proches pour pouvoir l'inhumer au plus près de là où elles habitent et peut-être plus facilement s'y recueillir. Si c'est le cas, c'est ce qu'on va appeler des morts pour la France restituées. Dans ce cas-là, ben, elles perdent le droit à perpétuité. On retombe dans le droit commun de la gestion des cimetières. C'est le Code général des collectivités territoriales. C'est donc l'entretien à la charge de la famille, à défaut des communes. C'est là où les communes peuvent faire appel, notamment au Souvenir français qui s'est spécialisé. Par contre, pour tous les morts pour la France dont les familles ont décidé de confier le corps à l'État, c'est là où ces morts pour la France sont inhumés soit en nécropole nationale, soit en carré militaire. Et là, c'est l'ONAC qui entretient à perpétuité ces sépultures-là.
Alors peut-être un mot sur le Souvenir français, qu'il n'y a pas de confusion avec votre organisation.
Alors le Souvenir français est une association, hein, contrairement à nous. C'est une association un peu particulière. Ce n'est pas une association d'anciens combattants, c'est une association, on va dire, patriotique, où peuvent s'y retrouver des anciens combattants, des jeunes, des non-combattants, tous les gens animés par un idéal un petit peu patriotique et de mémoire, de transmission mémorielle. Mais cette association s'est spécialisée dans l'entretien en fait, des sépultures de morts pour la France restituées qui sont en déshérence et qui n'ont plus de famille. Alors typiquement, c'est souvent les morts pour la France de la Grande Guerre, ce sont des sépultures qui ont plus de 100 ans. Lorsqu'il n'y a plus de famille, que les tombes sont en déshérence, elles peuvent décider, en accord avec la commune concernée, d'entretenir ces dites sépultures, ou le cas échéant, si la municipalité a un problème de place, de relever, mais de faire un regroupement pour entretenir malgré tout la mémoire de ces morts pour la France. Et c'est souvent là qu'elle appose cette association, la cocarde associative sur la sépulture, pour en fait faire comprendre qu'elle entretient. Elle entretient cette sépulture. Alors, ça reste une cocarde tricolore, mais qui est associative, hein, à ne pas confondre, à ne pas croire que ce sont les services de l'État qui entretiennent ces sépultures-là.
Alors, maintenant, les commémorations, ça c'est un point évidemment très important. Il y en a de nombreuses en France, et c'est là que nous croisons la presse, souvent M. Dupuis, qui officie, organise, enfin participe à l'organisation en tout cas, de ces moments commémoratifs. Peut-être rappeler les principaux, et j'aurai l'occasion de vous poser une question ensuite d'ailleurs sur cette activité prenante, si j'ai bien compris.
Oui, alors, les cérémonies sont effectivement nombreuses en France. Hein. Elles démontrent la riche histoire de notre pays et de tous ces conflits qu'elle a dû supporter. Il y a 15 dates officielles inscrites sur le calendrier aujourd'hui, dont 12 qui relèvent directement du ministère des Armées. Sachant qu'il n'y a pas de cérémonie en janvier-février, ni en août et en octobre, c'est-à-dire qu'en fait, on a environ 2 cérémonies officielles par mois sur les mois où il y a des cérémonies. Donc la première, elle est le 11 mars. C'est une cérémonie très récente qui est en hommage aux victimes d'attentats, justement. Et la dernière du calendrier se termine le 5 décembre, qui est en hommage aux victimes de la guerre en Algérie, au combat de Tunisie et de Maroc.
Très bien. C'est justement, vous avez parlé d'utiliser un terme que je voulais vous interroger, c'est la notion d'officiel, de date officielle. Quand est-ce officiel, c'est-à-dire que de toute façon, vous les organisez au nom de l'État systématiquement.
Absolument. Alors, ce qu'il faut savoir, À partir du moment où elles sont sur le calendrier de la République française, ces cérémonies doivent obligatoirement être organisées en ville-préfecture, puisqu'en ville-préfecture, ces cérémonies sont présidées par l'État, en la personne du préfet ou de son représentant. Dans toutes les autres communes, il y a environ 700 communes en Côte d'Or, elles sont de la seule compétence des maires. Voilà, donc chaque commune, en fonction du maire ou du conseil municipal, peut très bien organiser ou ne pas organiser, ou en organiser qu'une partie de ce calendrier. En ville-préfecture, elles sont obligatoires. Dans les autres communes, elles sont sous l'autorité du premier édile, et donc c'est lui qui choisit son calendrier.
Mais qui peut faire, par exemple, la date de libération du village ou de la commune.
Absolument. Alors après, à ces dates officielles, se rajoutent effectivement les cérémonies locales. Alors, il y a les cérémonies des libérations des communes. Et puis, parce que, notamment en Côte d'Or, dans le Châtillonnais, dans l'Auxois, il y avait énormément de poches de résistance, de réseaux, de maquis, où on trouve énormément de cérémonies locales qui sont soit à l'initiative des communes, soit à l'initiative des associations, pour rendre hommage là à des maquisards qui se sont fait fusiller, à un autre endroit, à des civils qui ont été bombardés, donc elles sont pléthores tout au long de l'année. Mais sur les dates officielles nationales, elles sont au nombre de 15.
Alors la question m'a été posée pour le Rwanda, parce que notre radio suit évidemment de près tout ce qui a à voir avec la question du travail de mémoire, comme vous l'indiquez. Vous rejoignez d'ailleurs Madame Veil, qui avait souhaité qu'on utilise plutôt cette terminologie que le devoir de mémoire. Pour le Rwanda, je ne crois pas que ce soit pour l'instant une date obligatoire, mais par contre, si des associations organise quelque chose, est-ce que l'État peut... Alors, comment ça se passe?
Oui, alors c'est plus effectivement l'éducation nationale qui peut être à la manœuvre, ou le monde associatif. En fait, tout va dépendre si dans les territoires se trouvent des associations liées à la thématique en question. Hein. On a la même chose pour les Tutsis. Donc l'État encourage toute initiative qui pourrait avoir, sans être forcément initiateur de quelque chose s'il n'y a pas... L'idée, une cérémonie, c'est commémorer. Commémorer, ça veut dire faire mémoire commune. Pour faire mémoire commune, il faut que les gens soient présents. Donc si c'est pour organiser une cérémonie où personne ne sera là parce que personne n'est concerné de près ou de loin, il n'y aurait pas forcément de sens. C'est pour ça que dans une commune, par exemple, on parlait des petites communes qui ont la liberté d'organiser leur cérémonie ou pas, certaines communes, elles ne vont pas organiser, par exemple, le 18 juin ou la date qui commémore les morts pour la France en Indochine, parce qu'il y a peut-être dans leur population plus aucune personne concernée par ce conflit-là. Donc voilà, l'idée ensuite, c'est de s'adapter, de trouver un public. Il faut que les cérémonies fassent sens.
Donc ça me paraît très clair. Alors, faire le lien maintenant avec le travail sur le département en matière de mémoire et citoyenneté, notamment avec les écoles, les associations, un petit peu nous présenter comment vous intervenez, avec qui, quels sont un petit peu vos projets, parce que je pense que c'est un élément central aujourd'hui de contribuer à la formation, à l'éducation, à la réflexion des jeunes, depuis très petits d'ailleurs, parce que je pense que c'est important, jusqu'aux adultes bien sûr, mais en particulier pour les lycées, les collégiens, en nous donnant quelques exemples évidemment de ce que vous avez vécu ou de ce que vous êtes en train d'organiser avec des partenaires.
Oui, alors vous avez raison de dire qu'il faut commencer très petit. Je pense que planter la graine le plus tôt possible est la meilleure chance de la voir éclore. Et donc, il est important de travailler dès le cycle primaire. Alors, moi, je dis souvent, le travail de mémoire, c'est une main qui a 5 doigts. Le premier de ces doigts, c'est le cercle familial, l'autorité parentale. Ça doit commencer là, cette transmission. Le deuxième, c'est l'éducation nationale, qui a un rôle également à jouer. Le troisième, c'est le monde institutionnel, l'État et ses services, dont l'ONAC-VG. Le quatrième doigt, c'est les élus, les collectivités territoriales, hein, les communes, les départements, ont un rôle aussi à leur niveau. Et le cinquième doigt, qui est tout aussi important, c'est le monde associatif. Et si l'on veut que ce travail de mémoire soit efficace, soit efficient, il faut absolument que les 5 doigts travaillent ensemble et que cette main puisse être la plus ferme possible. Donc ce qui veut dire... Par là, c'est que nous organisons des choses, nous accompagnons des structures ou des associations qui organisent des choses. C'est souvent un travail commun, le travail de mémoire. Donc on travaille avec des associations, on est à l'origine et on se fait accompagner par les institutions, par les collectivités. Voilà. Donc pour reprendre des exemples, nous, et alors c'est vrai que l'éducation nationale est avec les associations, un de nos premiers partenaires, forcément. D'une part, parce que c'est eux qui ont le public que l'on recherche. Donc c'est quand même effectivement une cible évidente. L'Office organise chaque année deux concours scolaires, un concours en primaire, un concours au niveau du deuxième cycle. Le concours qui s'adresse aux élémentaires s'appelle les petits artistes de la mémoire. C'est un projet en fait qui dure sur l'année scolaire, qui est lié à la Grande Guerre. L'idée étant que la classe, qui est volontaire hein, bien sûr, avec son enseignant, choisisse un soldat, un poilu. Alors soit il le choisit sur le monument aux morts de la commune où se trouve l'école et ils font des recherches, soit ça peut être un aïeul de l'un des enfants de la classe. Et puis au cours de l'année, ils vont réaliser un carnet, un peu comme le carnet René Fer, mais maintenant ça se modernise, ça peut être également sous forme un peu vidéo ou sur les nouvelles technologies, et c'est de travailler sur le parcours de ce soldat. C'est quelque chose qui marche assez bien puisque c'est pluridisciplinaire et c'est une manière un peu innovante d'aborder le sujet de la Grande Guerre sur des enfants qui sont encore jeunes. Et puis on a un deuxième concours qui s'adresse au collège-lycée et au-delà même pour des enfants qui ne sont plus forcément dans le circuit scolaire qui s'appelle Bulle de mémoire. Donc là on n'est pas lié à un conflit. Chaque année, il y a un thème différent et c'est à travers tous les conflits. Et l'idée, c'est de faire une bande dessinée, en fait. Donc, on s'adresse soit à des jeunes qui sont un petit peu passionnés par l'histoire et la mémoire, ou alors des jeunes qui ont plus, des talents ou des envies artistiques. Et l'idée, c'est de faire 3-4 planches sur la thématique de l'année de ce sujet. Alors, ça peut être de la Première Guerre mondiale, des opérations extérieures d'aujourd'hui, quel que soit le conflit. L'année dernière, on était sur les Jeux Olympiques, donc c'était le sport, le thème. Cette année, celui qui vient de s'achever, c'était sur les animaux dans la guerre. Et le nouveau thème qui arrive pour l'année scolaire 2025-2026, c'est les arts et la guerre. Alors, ça peut être tout ce que les poilus dans les tranchées pouvaient bâtir, construire, c'est peut-être les musiciens qui se cachaient dans les camps de déportation. Enfin, c'est vraiment tout conflit et c'est sur la thématique chaque année renouvelée. Et c'est un concours qui marche très bien, qui est né d'ailleurs à Dijon il y a une dizaine d'années et qui est devenu 2 ans après par son succès national. Et c'est un concours qui fonctionne très très bien. Donc ça, c'est typiquement des projets que l'on porte nous en direct. Et avec l'éducation nationale qui nous accompagne. Mais à côté de ça, on mène régulièrement un certain nombre d'autres projets. Alors ça peut être par exemple avec la délégation militaire départementale qui gère les classes défense. Il y a une vingtaine de classes défense sur le département de la Côte d'Or. On va, au même titre que d'autres intervenants, que d'autres acteurs, rencontrer les jeunes de ces classes défense pour aborder des thématiques, que ce soit les cérémonies, que ce soit les monuments aux morts. On a une mallette pédagogique qui s'appelle « Explique-moi une cérémonie ». Et qui est très intéressante et qui nous permet en avance de phase, quand on sait qu'une école va aller à une cérémonie, de pouvoir expliquer aux enfants, justement, quel que soit leur âge, qu'est-ce qu'une cérémonie, qu'est-ce qui s'y déroule, comment ça se déroule, quels en sont les acteurs, pourquoi on commémore. Donc l'idée, c'est de préparer les jeunes pour que lorsqu'ils arrivent à la cérémonie, ils ne découvrent pas et qu'ils ne soient pas des simples observateurs, mais qu'ils puissent vraiment y jouer un rôle, qu'ils soient des acteurs et qu'ils comprennent toutes les phases de cette cérémonie pour vraiment ne pas être perdus, parce que sinon on les décroche et ils n'en retiennent pas grand-chose. Donc voilà, on a un certain nombre de choses. Et puis moi, ce que j'aime faire régulièrement aussi, c'est ce que j'appelle de la rencontre intergénérationnelle. En Côte d'Or, on a 2 EHPAD qui sont labellisés, ce qu'on appelle labellisés Bleu et de France, c'est-à-dire qu'avec eux, on a conventionné parce que ce sont des établissements qui sont sensibles un petit peu aux valeurs de la mémoire, des cérémonies et autres. Donc on leur apporte en échange de lits qu'ils nous réservent à nos ressortissants, des animations au cours de l'année. Et on travaille notamment avec les écoles, ça peut être du collège, ça peut être de l'école primaire. On fait dans l'année 1 ou 2 journées où on rencontre, les élèves viennent au sein de l'EHPAD, rencontrent les seniors sur des thématiques particulières. Il y a 2 ans, on avait fait sur le 80e anniversaire de la création du CNR, du Comité National de la Résistance et du décès de Jean Moulin. Cette année, on a fait sur le 80e anniversaire de la libération des camps et de la victoire. En 2024, on avait fait sur le 80e anniversaire des débarquements. Donc voilà, on essaie de prendre une thématique. Les élèves travaillent en amont dessus. On a des expositions que l'on met à disposition également. Et puis pendant une demi-journée, les jeunes échangent avec les anciens. Alors on a d'un côté la mémoire de nos anciens qui ont connu ces périodes-là. Et puis, on a de l'autre côté les jeunes qui, eux, arrivent avec, pas cette mémoire, mais cette culture que leur enseignant leur a appelée, a prise. Et en fait, on mixte, on fait des tables de mixte, on fait des petits jeux. Et donc, c'est toujours intéressant de voir ces regards échangés entre des anciens et des jeunes sur des thématiques. Donc, c'est des choses qui touchent beaucoup les anciens. C'est des rayons de soleil qu'on leur apporte. Et puis ça permet d'entretenir pour les plus jeunes ce côté intergénérationnel qui est important d'entretenir. Et donc, je vous disais, on a également des expositions. Chaque service départemental de l'ONAC a environ une trentaine d'expositions sur les grands conflits contemporains, sur les grands personnages, et puis même sur des choses plus générales. On a une exposition sur la citoyenneté qui marche très bien d'ailleurs. Voilà, donc c'est des choses qu'on met à disposition gracieusement aux associations, aux établissements scolaires et à tout un chacun qui souhaite s'en servir pour un projet particulier.
Alors, c'est vrai que nous sommes à une période particulière de l'histoire de l'Europe, avec une guerre en Europe. On n'a jamais autant parlé des guerres. On n'en parlait plus alors qu'il y en avait encore beaucoup dans ce monde. Bon, parce qu'on a vécu une longue période. Il y a quand même eu la guerre d'Algérie qui a eu beaucoup d'effets, indirects et directs. Mais enfin, en tout cas, depuis la guerre d'Algérie, sur notre territoire, on n'a pas connu la guerre, même si vous l'avez dit, le terrorisme a à voir avec la guerre et les guerres. Vous êtes placé à un endroit qui est très particulier, mais du coup, nous, ce qu'on sent dans nos conversations, dans nos travaux dans l'école du lycée, et notamment le nombre de jeunes qui ont envie d'être réservistes aujourd'hui, on sent que cette question est au centre. Et comment vous pensez relier à la fois cette richesse extrême de votre travail autour de la mémoire et en même temps cette question aujourd'hui de comment réfléchir et comment avancer sans être anxiogène, justement, pour regarder les choses en face et traiter de cette question de la guerre et de la paix, étant donné vos missions sur la mémoire et la citoyenneté.
Et alors, comme vous le dites, l'actualité est là, elle est présente, c'est ce que le chef d'état-major des armées disait, hein, qu'on a vécu pendant des décennies sur les dividendes de la paix et qu'aujourd'hui, l'actualité internationale se rappelle à nous. Il faut bien comprendre, lorsque le président Chirac a suspendu le service national en 97, on arrive aujourd'hui avec des jeunes dont les parents n'ont pas fait leur service national. Ce qui fait qu'on a vraiment une distance qui s'est creusée, ce fameux lien armée-nation qui s'est distendu. Et pour les jeunes générations, mais même pour ma génération, qui est quand même une génération préservée, en fait, on est né dans un pays en paix et en liberté. Et on n'en prend plus conscience, c'est un peu comme l'air que l'on respire en fait. C'est quand on en est privé qu'on prend conscience que cette paix, cette liberté, elles ne sont pas venues de nulle part. Elles ne sont pas arrivées d'un coup de baguette magique et elles ont un prix. Elles ont le prix du sang versé par la liste innombrable de ces noms de gens gravés sur tous nos monuments aux morts. Et le sens des commémorations, les cérémonies, ça sert aussi à ça. Ça sert bien sûr à rendre hommage, à dire merci à ceux qui ont sacrifié leur vie pour nous offrir ce formidable héritage de cette paix, de cette liberté. Mais elle sert aussi comme une notion de vigilance en disant attention, ne recommettons pas les erreurs du passé. À force d'oublier, à force de ne plus s'y intéresser, le risque est grand de retrouver des choses que l'on pensait disparues à tout jamais. La paix et la liberté sont fragiles et n'oublions jamais qu'un peuple qui oublie son passé est souvent condamné à le revivre. Donc ces commémorations sont importantes, elles font sens. Ce lien armée-nation qui a été plus ou moins mis à mal, notamment par la suspension du service national, il est temps, effectivement, on le voit autour de nous, hein, l'Europe se réarme énormément. Quand on regarde le conflit en Ukraine, le nombre de réservistes que l'Ukraine sort et qui lui permet de tenir, hein, après tant de mois de combat. En France, c'est quelque chose que l'on redécouvre seulement. On avait commencé à redécouvrir ça après les tueries de masse des attentats de 2015. Mmh. Mais là, effectivement, il faut... Et je crois que la jeune génération doit et peut entendre ce que celle d'avant n'a peut-être plus entendu, que l'un des premiers devoirs de tout citoyen français, c'est la défense de la nation. Alors, on ne demande pas à tout le monde d'être des militaires, mais si un jour la nation était en péril, on aura besoin de toutes les bonnes volontés. Il nous faudra des médecins, il nous faudra des ingénieurs, parce que la guerre se fait aussi maintenant dans le cyber, elle se fait aussi dans un certain nombre de domaines, mais que nos concitoyens comprennent bien que on a un bien qui est précieux, on a un héritage qui l'est tout autant et qu'il faut en prendre soin. Et d'où l'importance de la cohésion nationale. Ce qui est assez terrible aujourd'hui dans notre société où tout n'est pas parfait, mais il suffit de voyager un peu dans le monde pour s'apercevoir qu'on habite certainement l'un des plus beaux pays dans le monde. Alors, par ses paysages, bien sûr, mais au-delà, par les valeurs que la République nous offre. La paix et la liberté comme devise dans un pays, rares sont les pays qui peuvent l'afficher officiellement dans le monde. Donc on est un peu gaulois, on grogne, on n'est jamais content. Mais quand on y réfléchit avec beaucoup de recul, on a la chance de vivre quand même dans un pays qui nous protège énormément, qui nous offre une liberté qui est très grande si l'on compare à d'autres pays. Encore faut-il en prendre soin, encore faut-il la défendre et encore faut-il faire bloc pour entretenir cette cohésion nationale, sans quoi malheureusement cette paix et cette liberté sont soumis à des grandes fragilités.
Merci beaucoup en tout cas pour ces remarques. Ce que je sais, c'est que pour rencontrer pas mal de jeunes réservistes, justement après les attentats, notamment des jeunes filles, ce qui était plus rare évidemment avant, nous n'avions pas affaire à des gens qui étaient politisés au sens d'extrémistes. D'aucun extrême, c'est plutôt des gens motivés, sérieux, calmes et qui avaient un sentiment d'urgence par rapport à la fragilité du monde en général et de notre monde en particulier et qui souhaitaient qu'il se passe quelque chose dans nos pays pour justement sauvegarder cette chance qu'on a d'être quand même libre et de pouvoir choisir nos chemins individuels. Même si c'est compliqué, il y a d'autres pulsions qui font qu'on a envie de devenir guerrier. Il y a d'autres. Actuellement, il y a beaucoup de politiques qui se mêlent à tout ça, bien entendu. Mais en tout cas, beaucoup de jeunes réfléchissent ou ont envie de réfléchir aujourd'hui à ces questions. Et la dimension de la guerre et la dimension des conflits commencent à faire partie de leur logiciel. Effectivement, ce qui n'était pas le cas avant. Alors, ils sont regardés parfois avec beaucoup de mépris par la génération d'avant plus âgée. Donc beaucoup n'ont pas fait le service militaire, alors, pas toujours par choix, parce qu'il y avait il y a eu des classes d'âge, il y avait beaucoup de monde, donc il y a un tiers des gens qui ne faisaient pas leur service militaire. Mais il y avait aussi des idées anti-militaristes très fortes, et puis simplement un oubli total des réalités du monde et de la violence du monde. Voilà, donc en tout cas, je vous remercie pour vos remarques. Je pense qu'on aura l'occasion de se revoir sur un certain nombre de thèmes, parce que je sais que vous engagez des travaux, notamment dans le cadre des routes mémorielles, qui est un projet extraordinaire de l'éducation nationale actuellement en région Bourgogne-Franche-Comté. Je vous rappelle que nous sommes avec M. Bruno Dupuis, donc directeur du service départemental de Côte d'Or, de l'ONAC, qui est un établissement public lié au ministère des Armées, l'Office national des combattants et des victimes de guerre. Et je voulais que vous puissiez conclure, M. Dupuis, en nous rappelant en quelques mots l'ONAC, qu'est-ce que c'est et quelles sont ses missions fondamentales aujourd'hui où la question de la guerre revient au centre du jeu.
Alors oui, merci. Effectivement, donc l'Office, sa grande mission, c'est l'accompagnement en premier de nos ressortissants. Sur la Côte d'Or, on estime à environ 20 000 ressortissants, 1,7 million sur la France. Donc un accompagnement social, mais pas que, administratif, moral, le cas échéant. On est là pour nous assurer également que le droit à réparation s'applique pour nos ressortissants. Et puis au-delà de nos simples ressortissants, ce travail sur la mémoire. Et je conclurai, vous avez dit des choses très intéressantes sur cette jeunesse qui s'engage. On entend souvent dans quelques médias parler de toute cette jeunesse qui casse, qui pille, qui... Alors, elle existe, l'idée, c'est pas de la cacher, mais malheureusement, on invisibilise beaucoup cette jeunesse qui s'engage, et elle existe aussi. Elle s'engage dans le monde associatif, elle s'engage dans le domaine humanitaire. Il y a deux préparations militaires marines sur la Côte d'Or, il y a les cadets de la gendarmerie, il y a les escadrières jeunesse, il y a les jeunes sapeurs-pompiers, il y a plein de jeunes qui, de manière un peu invisible, de manière un peu discrète, s'engagent. elle existe. Alors à tous les gens qui disent c'était mieux avant, la jeunesse aujourd'hui ne vaut plus rien, non, il suffit juste en fait d'ouvrir les yeux, il suffit de leur tendre la main aussi bien souvent, mais la jeunesse aujourd'hui elle est comme celle d'hier, elle n'attend qu'une chose, et ben c'est qu'on prenne attention à elle, qu'on fasse attention, et de toute façon c'est elle qui demain sera les adultes et qui arrivera à soulever les obstacles comme les générations précédentes ont soulevé celles d'aujourd'hui. Mais je crois qu'il faut avoir confiance en cette jeunesse, il ne faut pas la mépriser, loin de là, et il y a une vraie et belle jeunesse malheureusement trop invisibilisée aujourd'hui.
Très bien, je vous remercie beaucoup Monsieur Dupuis, à bientôt pour des émissions consacrées à vos travaux, notamment avec les jeunesses de notre département.
Avec plaisir. Pour de prochains échanges.
Merci beaucoup, à bientôt. Vous étiez sur Shalom Bourgogne dans votre émission Histoire, Mémoire et Transmission.